Alors, quel beau film d'abord. Bravo. Très touchant, très informatif aussi. Un beau regard sur le travail de ton père. Puis, j'aurais envie de commenter la discussion avec le début. En fait, l'amorce du film, c'est tout a commencé quand tu m'as permis de te filmer, ce qui sous-entend que ça n'a pas été facile. Alors, j'ai envie de te demander comment ça s'est passé. Combien de temps tu as dû insister pour ça?
Ben, comme Edmund, j'ai cherché un subterfuge d'abord. D'abord, je veux juste dire d'entrée de jeu que je suis quand même assez émue d'abord de vous voir si nombreux. C'est vraiment agréable. Et c'est la première fois que je revoyais le film depuis des années, peut-être 10 ans, certainement. Et donc, de revoir mon père en si gros plan pendant une heure, c'est troublant parce que c'est vraiment, il est vraiment vivant, il est vraiment, vraiment très présent et tellement complexe dans dans son esprit, dans sa façon de parler, tellement articulé, je trouve. Et je trouvais que le rythme du film était lent, tu sais, tout ça. Je me disais, ah, je ne sais pas, aujourd'hui, 20 ans plus tard, comment on le ferait. Mais en même temps, je trouvais ça agréable d'absorber sa pensée comme ça. Mais c'est ça qui me frappe le plus, c'est à quel point il prend le temps de répondre. Donc, moi, je vais essayer de répondre, mais c'est sûr qu'il avait, c'est ça, une pensée très singulière, très à lui. Alors, c'était un être très privé, comme je le mentionne dans le film. Et pour le filmer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était avant Skype, avant toute cette technologie, et je m'en allais en France, et j'allais aller voir un de ses amis peintres des années 60, Jacques Monory, un peintre de la figuration narrative, qui avait été son grand ami dans les années 60. Et j'ai dit, ah, écoute, papa, peut-être que je pourrais te poser 5 questions, et tu me réponds, et je vais les montrer à Jacques. Et je vais les poser aussi à Jacques et je vais le filmer et je vais te ramener ça et on pourra faire un dialogue. Donc, ça aurait pris 3 minutes en Skype. Ça a pris 6000 km d'avion et tout et 2 mois. Mais enfin, donc là, avec ce prétexte-là, il m'a dit « OK, Jacques, tu sais, il aimait beaucoup son avis. » Donc, en fait, c'est arrivé comme ça un après-midi où tout d'un coup, il était un peu sans défense puis j'avais ma caméra, puis c'est ça. J'ai vraiment juste dit, juste 5 questions. Et là, il m'a dit, 5, pas plus. Et là, j'étais vraiment comme ça. Et finalement, je ne pensais pas du tout faire quelque chose avec ça, vraiment. Enfin, finalement, j'ai fait un petit film qui s'appelle « Imaginez le rien ». Parce que, étonnamment, Jacques Monory, de l'autre côté, aux mêmes questions, parlait des mêmes choses et parlait du rien. Et c'était vraiment fascinant. En fait, c'est important parce que ça a donné lieu à ce petit film-là que mon père a pu voir, qui était un film très ludique, très libre. Et là, mon père avait vu ça puis il m'avait dit « Ah, c'est chouette, c'est charmant ». Et quand est venu le temps de faire mon film « L'atelier de mon père », là, donc, l'atelier, il est resté intact pendant 2 ans, le temps que je trouve le financement pour faire le film. Que je fasse venir Gabor et tous les gens qui sont venus dans l'atelier intact. Et ensuite, c'est ça, quand j'ai eu donc les sous, j'ai fait venir une équipe. Et quand je me rappelle du premier jour où j'ai vu débarquer les techniciens, l'équipement, les gens qui posaient des choses partout, puis là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça, d'ouvrir cet atelier-là? Ça n'a aucun sens, tu sais. Mon père était tellement secret, tellement pudique et tout. Et finalement, je me suis souvenue de sa phrase et de son accueil du petit film. Et je me suis dit, si je vais dans le même esprit où je me donne une liberté, puis de toute façon, il y a beaucoup de bienveillance dans ce film-là, c'est pas non plus... je me disais, il m'autorise à le faire. T'sais, mais c'était pas évident. La première journée, j'ai eu mal au cœur. Je me suis vraiment dit, ce que je fais, ce que je viole l'intimité d'un atelier, c'est très particulier, là. Mais bon, finalement, je pense quand même qu'il accepterait, puisque c'est lui la parole centrale du film aussi. Et donc, ce petit entretien-là de 15 minutes, dont j'ai montré 4-5 minutes le soir de sa veillée funèbre, en fait, quand il était décédé, et un ami m'a dit, « Est-ce que tu as plus de métrage? » J'ai dit, « J'ai 15 minutes. » Il m'a dit, « Faut que tu fasses un film avec ça. » Et parce que mon père était tellement vrai, tellement franc, Et on sent qu'il pense à ce qu'il veut dire, on sent qu'il veut répondre, tu sais, des questions, des réponses qui sont chargées de sens. Donc, effectivement, après, je me suis dit, OK, il va falloir que je tricote autour de cette matière-là, mais il y avait quand même de la matière.
Mais tu le filmes plus qu'une fois parce qu'il est habillé différemment. Alors, tu as réussi à le filmer plus qu'une fois.
Ah ben, par exemple, quand je filme sur le quai, ça, c'est des moments que j'avais un peu comme ça volé, mais si vous voyez que les plans sont très courts, Monet se retourne sur le quai, il me regarde. Mais c'est d'ailleurs ce qui m'a touchée ce soir, de voir que je ne me souvenais pas qu'on avait filmé lui regardant l'eau, regardant ses reflets d'eau. Et ça, je trouve, je me suis dit, ah ben, c'était une bonne idée de faire ça, parce que je pensais qu'en fait, tout ça m'avait échappé. Je n'ai pas pu vraiment le filmer travaillant. C'est une reconstitution quand je suis dans ma boîte de carton, avec un autre peintre d'ailleurs, Denis Pellerin, qui est venu incarner Edmund, mais pour avoir les gestes justes. Mais donc, mon père comme tel, je n'ai pas pu le filmer travaillant. Ça, je pense même que si j'avais voulu, je pense pas qu'il travaillait dans le regard de quelqu'un.
Ouais. Et le rapport au studio ou à l'atelier, c'est quand même très particulier. Les gens qui me connaissent vont trouver que je me répète, mais je dis toujours qu'on a un grand, grand privilège d'avoir accès à l'atelier comme conservateur, comme commissaire. L'espace d'atelier, c'est quand même privé. C'est aussi un espace de vulnérabilité parce que les œuvres sont souvent inachevées ou en cours. Donc, on voit toutes sortes de choses dans l'atelier qui n'est pas nécessairement prêt. Et c'est un privilège que le grand public n'a pas. Ce rapport-là à l'atelier, la sœur de Anne-Manu le dit, même elle, au début, quand à Québec, là, dans le premier atelier, dit on n'avait pas le droit d'entrer, donc c'est un espace très privé. Tu le dis toi-même, tu n'aurais pas pu le filmer en travaillant. Est-ce que tu l'as vu, par contre, souvent au travail, dans l'atelier? Donc, pour lui, ce n'était pas vraiment un espace social, l'atelier, c'était vraiment un espace privé ou un peu des deux?
Ben, je pense que selon les étapes où il en était dans la production d'une série, par exemple, si je pense qu'une fois qu'une série commençait à s'être levée ou qu'elle commençait à être plus abouti, là, oui, il y avait des gens qui pouvaient venir. Il y avait toujours des gens qui venaient pour prendre l'apéro. Mais en fait, je pense à une anecdote de ma mère qui, donc quand ils se sont connus, très rapidement, ils ont effectivement habité ensemble. Et mon père lui a dit, il y a une seule chose, parce que c'était un tout petit atelier avec une micro-mezzanine. Il lui a dit, durant la journée, là, vous ne pourrez pas être là. Ils se sont vous voyez pendant un an. Et il lui a dit, vous ne pourrez pas être là dans la journée, là. Et elle a dit, il m'interdisait de revenir avant 17h. Donc, elle fallait qu'elle soit ailleurs. Heureusement, elle avait un autre petit endroit où elle allait travailler, elle aussi. Mais donc, c'était vraiment déjà là, un lieu, effectivement, très, très, très réservé au travail. Par contre, l'apéro à 5 heures pour regarder ce qui avait été fait dans la journée, en discuter. Et il aimait beaucoup le regard de ma mère, donc ils avaient beaucoup de discussions sur le travail en cours. Et ensuite, elle a carrément participé donc à l'Introscaf, à toutes sortes de projets. Et je sais qu'à Montréal aussi, où il a été donc pendant presque 50 ans dans son atelier de la rue Clark, il y avait aussi des gens qui venaient. À différentes étapes. Et ces gens-là, c'est les plus intimes qui sont dans le film. Leslie Reed, qu'on voit à la fin, c'est une peintre qui a été sa collègue à Ottawa pendant 20 ans d'enseignement là-bas, 15 ans. Alors, Leslie, c'est quelqu'un qui avait un vrai dialogue avec lui sur tout son travail. Et elle pouvait venir et discuter. Mais l'atelier, il ne recevait pas les gens-là. Non, il y avait son appartement d'étage en dessous. Je pense qu'il y a des gens qui effectivement vivent l'atelier autrement, c'est un lieu où il peut y avoir du passage, etc. Mais moi, j'ai eu beaucoup accès à son atelier puisque j'étais là le week-end et lui, il ne s'arrêtait pas du tout parce qu'il avait sa fille de travailler. Donc, moi, j'ai passé des heures entières, en fait, à soit faire un dessin exactement similaire à ce qu'il était en train de faire, à ma façon, et à passer des heures et des heures et des heures à le voir, ou en tout cas à savoir qu'il était là au coin de la pièce en train de travailler. Oui, et oui, c'est des souvenirs très, très prégnants. Puis c'est drôle, j'ai beaucoup réfléchi à ça après, quand j'ai... Je fais une mini-parenthèse, quand j'ai eu un enfant et que j'ai compris ce que c'était que d'être un artiste avec un enfant. Et que mon père, que je pouvais me dire, ah, il est en train de travailler et il n'est pas avec moi, mais en fait, il était, je pense, au comble du bonheur d'être en train de travailler puis d'avoir l'enfant qui est pas loin dans l'atelier. Dans le fond, c'était vraiment peut-être la quintessence, là, tu sais. Et je pense pas que c'était une absence, c'est juste qu'il était complètement absorbé par le désir de peindre, puisqu'en plus, il enseignait la semaine, donc il n'avait que les week-ends où il retrouvait son atelier à Montréal. En tout cas, ça, c'est une petite réflexion.
Mais ça m'ouvre la porte à poser la première question qui m'est venue en tête quand tu m'as invitée à voir le film d'abord, puis à réfléchir à sa teneur aujourd'hui, ou à ma, peut-être ma propre réaction par rapport au film. C'est cette idée de... Quelle était, toi, ton intention dans faire un film sur ton père? Parce que j'ai pensé tout de suite à La femme qui fuit, d'Anaïs Barbeau-Lavalette, sur sa grand-mère. J'ai pensé aux enfants du Refus global. J'ai pensé aussi à un essai qui vient de paraître de Jeremy McEwen, qui ne porte pas sur son père vraiment, mais dans lequel... qui porte sur la musique, son rapport à la musique, mais dans lequel il parle un peu quand même de façon détournée de son enfance avec sa famille, puis que c'était compliqué, puis que son père était assez absent, puis que de cette absence-là, peut-être, ça expliquerait un certain rapport lui-même qu'il a eu avec une masculinité plus affirmée à un certain moment. Et je me suis demandé, mais... pour toi, est-ce que tu avais des comptes à rendre? En fait, tu cherchais à régler des comptes avec ce film, puis ensuite, bien sûr, je l'ai vu, c'est pas du tout la teneur qu'on a quand on voit le film, c'est pas du tout ce qu'on retient, mais quand même, je me demandais comment c'était de grandir comme ça, puis est-ce que c'est ce qui t'a motivé à faire ce film-là pour essayer, je sais pas, de mettre des mots sur une expérience très singulière que de grandir avec un père artiste?
Non, pas du tout. Vraiment, alors ça, il y avait eu ces films-là. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait eu déjà des Enfants du Refus global. J'ai vu ces films-là, qui sont effectivement des films où je comprends très bien certains artistes ont besoin de... ou certains enfants d'artistes ont besoin de régler des comptes par le biais de leur propre œuvre ou... Et moi, je n'étais pas du tout habitée par ça. Je pense que mon envie, moi, était d'abord de faire vraiment un film sur l'art. Ce n'était pas tant un film sur une relation père-fille. Un dialogue, oui, posthume, entre une fille qui se questionne aussi sur l'art et son père, un artiste jusqu'au bout des doigts. Donc, mon père était quelqu'un dont la vocation, tellement sûre, dès 14 ans, ça m'a toujours impressionnée. Parce que moi, j'ai passé ma vie à me dire, mais moi, est-ce que j'ai une vocation? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce qu'on l'apprend, tu sais, comme ça? Ce pourquoi on est fait? Lui, il avait tellement l'air d'être fait pour ça, pour la peinture. Et en fait, j'avais envie En fait, pourquoi j'ai voulu faire ce film, c'est vraiment parce que, au moment où il est décédé et que j'ai pris vraiment complètement la mesure de la variété de son parcours, tu sais, des quatre ou cinq identités complètement distinctes, où je me disais ça pourrait être cinq artistes, et j'ai voulu essayer de chercher le fil conducteur, d'essayer de me dire, et c'était une façon, c'est Autodix qui dit ça, dit, chaque fois qu'on fait le portrait de quelqu'un, on fait le portrait de soi. Et c'est peut-être pas flatteur d'ailleurs pour lui, mais dans mon cas, c'est sûr qu'après coup, je me suis rendu compte que oui, j'avais sans doute aussi fait une quête personnelle à travers ce film, c'est évident, mais qu'elle était beaucoup plus au départ. Moi, je suis, tu sais, j'ai étudié en journalisme, en histoire de l'art, donc je l'ai approchée plus comme une historienne. En fait, j'ai plus eu envie de chercher les fils conducteurs d'une période à une autre, et surtout de questionner les imbriquements entre la vie et l'art. Donc, entre ce qu'il avait vécu et comment ça avait pu influencer son art, ses ruptures géographiques. Essayer de comprendre, d'aller chercher les morceaux qui me manquaient pour comprendre, en fait, un peu le parcours de cet homme-là. Mais c'était... En fait, moi, je partais du principe que je trouvais ça plutôt très riche, en fait, comme berceau, que c'est ça, que c'était une vie complexe, que c'était une vie qui était pleine de mystères, puisqu'il avait été de peu de mots, et que donc j'avais des petits trous à combler. Et le film, ça a été plus une sorte d'aventure pour aller justement chercher, glaner toutes sortes de petites parcelles. Et ce qui m'a appris le film et que je trouve de plus en plus intéressant, et c'est drôle parce que quelqu'un me parlait il y a quelques jours en regardant des œuvres à l'exposition qui est chez Roger Bellemare et Christian Lambert, me parlait de Heidegger et de cette notion du Dasein, je ne sais pas comment on prononce, mais l'être-là et cette question qu'on est un être en projet et qu'on est continuellement en devenir. Et je pense que mon père était très heideggerien, il était en projet continuellement et en devenir permanent. Et ça, au fond, ça a été vraiment surprenant comme réponse, mais c'est pour ça qu'à la fin, je finis en disant peut-être que le dialogue ne fait que commencer. Et alors que je pensais partir à la recherche de réponses, au fond, je suis partie à la recherche d'encore plus de questions. Et c'est propre de la vie, mais je me rends compte que, en ce sens-là, je suis un peu comme lui, probablement, que je ne me satisfais pas, je ne pense pas qu'il n'y a qu'une seule réponse à une question. Et que donc, cet homme-là, plus j'ai creusé, plus j'ai sondé son existence, plus il est devenu complexe, plus c'est devenu vaste. Et son œuvre, surtout, je me suis dit, mais au fond, il n'y a pas qu'une interprétation. D'abord, il y a une interprétation il y a 20 ans. Il y a les interprétations qu'on peut faire aujourd'hui. Et mon père, je pense, par sa toute première question, c'est à ça qu'il ouvre. C'est-à-dire que c'est comme s'il me disait, tu n'auras jamais tout à fait les réponses. Et maintenant, je trouve ça vraiment intéressant de me dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Et c'est pour ça qu'on continue à évoluer dans notre courte existence, là. Donc, c'est plus une espèce de, voilà, d'aventure presque philosophique, au fond, parce que peut-on connaître un autre être de toute façon, et son père encore plus. Donc voilà. Il n'y avait pas du tout de règlement de compte, non. Tu vas me dire peut-être qu'il y avait la petite question que tu m'as posée sur le tableau où moi je suis nue et lui est habillé, et... Je me suis beaucoup... Là-dessus, je lance la question. Malheureusement, on n'en a pas parlé dans cette entrevue-là. J'ai pas de réponse à ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il admettrait que ce serait infaisable, qu'il ne le ferait pas, il ne referait pas un tableau comme ça. Mais à l'époque, ce qui a été intéressant, c'est que, en fait, je crois que lui, il cherchait ce petit malaise. Je veux dire, c'est ça qu'il voulait montrer aussi. Il y avait quelque chose de cette... Il était troublé par la pureté d'une sorte d'enfance, tu sais. Il était troublé par l'espèce d'innocence et tout ça. Mais aujourd'hui, évidemment, là, tu sais, il y aurait tellement d'autres qualificatifs qui pourraient s'ajouter à ce tableau-là. Et je lui avais quand même dit, pourquoi toi, t'es pas nu? Pourquoi on n'est pas tous les deux nus? Tu sais, non, mais tant qu'à y être. Et lui, il disait, oui, mais moi, j'ai ce queue de pie, j'ai un chapeau melon, j'ai des shorts. Je suis ridicule, je suis l'homme ridicule dans ses habits, son queue de pie. D'ailleurs, on retrouve l'idée du singe à la toute fin qui est sur un petit piédestal, qui est une sorte d'homme vaniteux qui se met sur un piédestal. Et je pense qu'à côté de l'enfant qui n'est pas encore dans ce monde adulte, qui a besoin de se donner toutes ses postures, ses statures, ses... qui d'ailleurs ne rime pas à grand-chose face à la mort, je pense que il y avait une grande critique de lui-même, de la position de l'artiste aussi. Et moi, évidemment, enfant, je ne voyais que moi nu. surtout effectivement au vernissage du musée d'art contemporain. Mais ma mère, à l'époque, pour le vernissage, m'avait cousu une robe qui était un coucher de soleil, qui était exactement un tableau. Fait que moi, je me promenais, j'étais comme un petit coucher de soleil qui se promenait dans l'exposition. Fait qu'à la fois, c'était bizarre, parce que je repense à ce moment-là, puis je me dis, à la fois, moi, je sais que j'étais gênée du tableau qui était dans l'expo, puis en même temps, je portais cette petite robe, et moi, j'étais très timide enfant. Et elle m'avait fait une robe qui forcément attirait l'attention. T'sais, alors, les deux parents faisaient en sorte que, je veux dire, il y avait tellement d'attention. Et moi, j'aurais voulu rentrer dans le plancher, tu sais. Mais donc, maintenant, je me dis, oui, c'est particulier. C'est particulier que moi, j'ai traversé tout ça pour ensuite me mettre, moi aussi, dans cette posture d'artiste. Mais c'est comme ça.
Oui, c'est ça. Peut-être le dialogue ne fait que commencer finalement, parce que ton travail comme artiste, et pas comme cinéaste, là, qui est une forme d'art aussi, mais comme artiste, c'est par la suite en fait, c'est après ce film, c'est quelque chose qui se
déploie. Tout à fait, en fait, c'est que quand mon père est mort, donc j'ai fermé son atelier avec l'aide de ces deux extraordinaires inventorieuses, dont l'une des deux, Marie-Ève Beaupré, que vous avez reconnue, est aujourd'hui la directrice de la Fondation Molinari. Et l'autre, Mélanie Rainville, travaille en Belgique, elle aussi en art. Elle, ça, deux femmes d'exception. Mais quand on a fait donc tout cet inventaire, évidemment, on a pu ensuite fermer l'atelier. Et moi, quelque part, c'est là que le mien s'est ouvert. Ça a vraiment été un transfert où j'ai enfin osé, disons, me dire que je pouvais peut-être moi aussi créer des œuvres qui seraient éventuellement accrochées sur des cimaises ou dans un contexte de galerie. Et je me suis sentie très à la maison, en fait, dans ces gestes-là d'atelier intime. Et ça a pris du temps, je pense que du temps du vivant de mon père, j'aurais pas pu. Je suis allée dans le cinéma qui n'était pas son territoire. Et effectivement, là, graduellement, il y a une espèce de transformation qui s'est produite.
Ouais. Et peut-être l'autre passage qui m'a vraiment frappée dans le film, c'est quand tu lui demandes qu'est-ce que tu aimerais que ta peinture transmette. Puis il répond à une forme de solidarité humaine, puis l'importance de la beauté. Puis de mettre ça ensemble, il y a une forme de réflexion qui suggère que l'esthétique est d'une certaine façon aussi éthique, où il y a une adéquation entre les deux, que la beauté est aussi une forme d'harmonie. J'aurais voulu l'entendre davantage sur ça. Est-ce que c'est un sujet que vous avez discuté, l'idée de la beauté? Parce que c'est un mot qui est important en art, puis en même temps qu'on l'utilise très peu.
Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment intéressant parce que moi aussi, j'aimerais vraiment l'entendre parler de ça. Je suis sûre qu'il y aurait une réponse fine et précise. C'est des choses auxquelles il réfléchissait beaucoup. Moi, je n'ai pas eu cette conversation avec lui en étant la personne que je suis aujourd'hui. J'étais quand même plus jeune et je pense que même le mot beauté, il y a 20 ans, n'était pas considéré comme il l'est aujourd'hui, comme tu disais, en art contemporain particulièrement. C'est peut-être pas un mot qu'on emploie. Je pense que, là, je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Je me suis dit, mais la beauté, au fond, je pense que pour mon père, il y avait deux choses. Quand il a commencé à peindre, une des choses qu'il m'avait dites, c'est qu'il avait éprouvé une sorte de magie quand il avait vu qu'en allant comme ça, avec une petite palette au bord du fleuve, peindre la lumière sur des blés ou sur l'eau, il était capable d'encapsuler une émotion. Et je pense qu'il faut le ramener à l'émotion. Je pense vraiment que pour lui, la beauté, c'est ça. Et l'art, c'est le vecteur d'une émotion. Et il avait dit, mais c'est absolument magique si je peux l'encapsuler et ensuite la repartager. Donc, je pense que l'idée de la solidarité humaine, c'est l'idée de réunir des êtres autour d'une émotion fragile, fugace, fuyante, qui est proche aussi presque tout de suite un souvenir, presque tout de suite quelque chose qui appartient à la mémoire, et d'avoir peut-être, grâce à l'art, la possibilité de la partager avec d'autres humains qui vont aussi donc, la porter en eux. Et c'est pour ça que cette idée de solidarité, je pense qu'elle est très importante chez lui. Même si c'était un être solitaire, c'était quelqu'un de très tendre aussi pour les humains, quand même. Même s'il était plein d'ironie et qu'il trouvait absurde cette existence, il se disait « on est tous dans le même bateau » à essayer de faire du sens avec ce passage sur la Terre, avec les émotions qu'on éprouve. Et effectivement, pour lui, déjà, tout le domaine de l'émotion, c'est comme sa sœur le dit, c'était une chose qui avait été presque interdite, en fait. Toute son enfance, toute sa jeunesse, c'est quand même énorme de se faire interdire d'éprouver des émotions et de les nommer. Je trouve ça terrible quand je l'entends, sa sœur. Et de ne pas démontrer son affection non plus, et tout ça, c'était... Et donc l'art, on peut comprendre à quel point c'était finalement une sorte de conduit direct vers peut-être le sentiment le plus intense de se sentir vivant aussi et d'être dans la... Tu sais, quand il parle du petit flocon de neige de James Wilson Morris, là, c'est comme s'il il éprouve cette émotion-là à 14 ans et ça le bouleverse totalement. Et effectivement, il sent que lui, c'est à portée de main, là, un pinceau, une palette, et il va pouvoir peut-être provoquer ce choc-là chez d'autres, ou en tout cas partager ce choc-là. Mais la beauté, je pense quand même qu'il y avait quelque chose, oui, lié à l'harmonie, sans être nécessairement les critères du beau. Qu'est-ce que le beau? C'est tellement subjectif. Et aussi, je ne pense pas que c'était que... Tu sais, si on regarde son travail, mon père aimait Bacon, mon père aimait Beckett. Je veux dire, c'était des êtres qui étaient aussi dans la violence de la vie, qui étaient...
Dans l'intensité
énormément, tu sais. Mais dans une certaine image de la laideur aussi, de l'humain, etc. Donc, c'est la beauté dans la laideur. D'ailleurs, c'est étonnant, parce que ça, c'était vraiment le mantra d'Autodix sur qui j'ai fait un film. Mais c'est fou à quel point ça, comment dire, ça coule hein, dans les veines. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il dirait, parce qu'il parle de la recherche de la beauté aussi. Et je pense que c'est peut-être même aussi quelque chose qui nous élève. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous élève de la vie courante. Tout d'un coup, quand il y a un regard qui permet d'accéder à l'essence même d'une chose, peut-être que ça serait ça, sa notion de beauté. Je ne sais pas. Je serais curieuse d'entendre certains artistes qui sont ici sur la beauté, d'ailleurs, mais je vais voir si vous avez l'autre.
Trop bien. Mais pendant que tu regardes, moi je dirais s'il y a des gens qui ont envie de poser, on aurait peut-être le temps pour une ou deux questions, si vous aviez envie de partager ou une réaction par rapport au film ou à votre propre connaissance du travail de Minalé. Puis bien sûr, on peut poursuivre la discussion dans le
après. Alors j'ai une mini remarque qui est quand même, c'est ça, intéressante peut-être parce que. En fait, je trouve que plus on avance dans le monde dans lequel on vit actuellement, là, tu sais, des réseaux sociaux, des selfies, de toute cette image du soi qui est tout le temps tournée vers l'extérieur, je me rends compte à quel point mon père était vraiment un être intérieur. Et c'était un être qui valorisait, chérissait cette vie intérieure qu'on a en soi, qui n'a pas forcément à être communiquée. Elle va l'être, lui, parce qu'il pouvait la canaliser, évidemment, dans son art. C'est une chance, là, inouïe. Tout le monde ne l'a pas. Puis, effectivement, maintenant, on a tous l'outil de pouvoir, effectivement, se refléter vers le monde extérieur. Mais quand je pense à lui, maintenant, je me demande beaucoup ce qu'il penserait de toute cette espèce d'inversion qui s'est produite aujourd'hui. Où tout d'un coup, c'est même devenu difficile d'avoir une vie intérieure. Je l'expérimente aussi, je veux dire, il y a comme une invasion complète et un mouvement qui est devenu presque obligatoire et naturel d'aller reporter tout ce qui se produit en nous. et de le partager même au fur et à mesure. Et ça, cette idée-là du fur et à mesure ou de l'atelier qui serait comme tout le temps ouvert, tu sais, je veux dire, on a beaucoup de gens qui partagent continuellement toutes les étapes du travail ou des recherches, c'est presque troublant, je pense que pour lui, en tout cas, ça serait complètement troublant parce que lui était plus dans une sorte de longue gestation. Une fois que l'idée était aboutie, il allait la présenter dehors, je pense. En tout cas, c'est ça. Mais je connais d'autres artistes qui me disent qu'aujourd'hui, ils auraient, tu sais, ils ne savent pas s'ils auraient créé, s'il avait fallu qu'ils soient comme ça dans ce mouvement vers l'extérieur continuel. Voilà. Est-ce qu'on a des questions?
Vous avez parlé brièvement du fait que pendant une bonne dizaine d'années, l'essentiel de son temps était occupé à une pratique d'enseignement. Quelles étaient les zones de perméabilité entre ce travail-là et son travail de peinture? Est-ce que c'était tout simplement une obligation de la vie que d'enseigner, ou est-ce que ça avait vraiment une force, une influence sur la manière dont il concevait ensuite son travail en atelier?
Ben, je ne peux pas parler pour lui, mais c'est certain qu'au début, il y a eu effectivement une obligation financière. Il est rentré après 15 ans d'exil en France, ruiné complètement par son introscaf. Là, il avait même été obligé de vendre son atelier parisien. Il est rentré, il avait englouti des sommes faramineuses pour engager des ingénieurs qui ont créé le moteur, qui ont créé tout ça. Donc, ça a été vraiment un gouffre complet. Donc, quand il est rentré, il a eu une opportunité de commencer à enseigner à l'Université d'Ottawa. Et le fait que c'était à Ottawa, ça l'obligeait à faire des allers-retours. Donc, s'il enseignait 2 jours semaine, mais il faisait 2 allers-retours pour passer le mercredi entre les deux dans son atelier. C'était à ce point-là, il ne pouvait pas supporter de passer une journée à rien faire, en fait, perdu à Ottawa entre les deux. Et je pense qu'il a quand même trouvé ça très riche d'enseigner. D'abord parce qu'il a eu des élèves avec qui il est resté, en fait, en contact toute sa vie, des gens très proches, pour ne nommer que Geneviève Cadieux, Lynn Lapointe, Olivier Asselin, Pierre Dorion, c'est peut-être les 4 qui sont restés vraiment un noyau d'interlocuteurs tout le temps, qui venaient dans l'atelier, qui discutaient. Lui allait énormément. En fait, mon père suivait énormément le travail de ses collègues. Certaines personnes vont le dire. C'est vraiment quelqu'un qui était très, très, très curieux du travail des autres. Et donc, du travail de ces jeunes artistes-là, chez qui il percevait là, une sève incroyable. Et il a été très encourageant, je crois, pour ces gens-là. Et c'est sûr que, malgré tout, il trouvait ça dur, parce que c'est quelqu'un qui avait toujours, dès sa sortie de l'École des beaux-arts, ne fait que peindre et travailler. Il n'a pas enseigné en Europe, il a vécu 15 ans de sa peinture, exposant sans arrêt, tout ça. Et donc là, tout d'un coup, d'être comme divisé dans son temps, c'était très, très difficile pour lui. Est-ce que ça a influencé son travail? Ça, ben, je pense que c'est surtout le contexte de réintégrer le Québec, cette société qui avait tellement changé. Il est rentré en 71 en se disant, il y a une mouvance indépendantiste, il faut que je sois là, il se passe quelque chose au Québec, il faut participer à ça. Il est extrêmement déçu en 80. Et à partir de là, la politique québécoise, il s'en est beaucoup éloigné, beaucoup détaché. Et il est rentré vraiment dans un mouvement intérieur. C'est comme si je pense que le citoyen plus engagé et vraiment en contact avec la politique même dans le monde entier, je veux dire, comme il parle de la guerre du Vietnam ou l'avancement des technologies, tout ce qui avait été, là où il avait été le plus poreux, je crois que c'est vraiment en Europe, où il était poreux à tout ça, toutes ces réalités-là, puis il les intégrait, et ça motivait des ruptures dans son travail. Quand il est rentré ici, c'est comme s'il est entré dans l'hiver, une forme d'hiver et de silence, et son atelier est vraiment devenu une grotte beaucoup plus, beaucoup plus tournée sur l'intérieur, la métaphysique, la condition de l'existence, mais moins dans le rapport aux autres humains et plus dans le rapport peut-être aux vestiges, aux objets qui nous survivent et à toute cette, justement, cette notion d'absurdité de l'existence. Puis il devait se sentir aussi vieillir et approcher finalement de la mort, même s'il est mort juste à 73 ans, ce qui est quand même très jeune. Mais il était déjà quand même assez... Il était assez noir à cette époque-là. Il était quand même assez... névrosé, si on veut, d'une certaine façon. Heureusement, il était sauvé par son humour, là. Il avait énormément d'humour. Mais c'est quand même une vie où, là, tout d'un coup, il s'est concentré, surtout parce qu'il a arrêté d'enseigner à 55 ans. Il a enseigné comme 15 ans. Et là, c'est devenu une production intense, intense, intense. Pendant 20 ans, là, il a vraiment travaillé, mais sans relâche. Je veux dire, il a produit vraiment plusieurs séries. Et c'était vraiment un imbriquement très, très... très, très serré, en fait, entre effectivement ce qu'il vivait, bien, comme beaucoup d'artistes, là, évidemment, mais dans son cas, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que son œuvre est un journal, qui est très lisible, nécessairement, mais malgré tout, toutes ces traversées, elles sont reproduites dans son œuvre. Donc, c'est toujours, comme dit Leslie, c'est pas direct, mais c'est quand même, il parle quand même de ce dont il est en train de prendre conscience. Là. Je ne sais pas si ça répond. Est-ce qu'il y a une autre question?
Mais je vous invite à nous suivre dans le hall. C'est Jennifer qui vous offre
un petit verre, mais malheureusement, on ne pouvait pas offrir d'alcool. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais c'est juste des petites bulles pour lancer le temps des fêtes. Écoutez, c'est vraiment... je dois dire que pendant que j'écoutais le film, je me disais, quelle chance on a encore de se réunir autour d'une mémoire et chacun de repartir avec des fragments, des parcelles. Et je pense, moi, peut-être que ça, j'ai hérité ça de mon père. Il était donc très inquiet du devenir de l'homme face à la machine. On n'en parle pas beaucoup dans le film, mais on a fait une expo il y a 2 ans, l'expo techno chez Roger Bellemare aussi, où vraiment, là, tu sais, mon père, dès les 67, questionnait beaucoup la protubérance, en fait, les prothèses des machines qui allaient vraiment prolonger l'humain, le transhumanisme et tout ça, là, aujourd'hui. C'est dingue. Et donc, ce soir, je trouve qu'on est chanceux, quelque part, d'avoir encore une réunion humaine autour de l'esprit d'un être humain. Donc, et de sa tentative d'expliquer notre passage sur la Terre. Fait que voilà. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Et on se retrouve en... Je veux juste quand même faire un remerciement immense.